du jazz.
D'hier et d'aujourd'hui.
Laurent Verdot.
Pascal Verdot.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Nous avons consacré une émission à rafraîchir un peu les mémoires sur le jazz des origines. Et aujourd'hui, nous allons compléter cette première émission en allant de l'époque dite de Chicago à la grande crise de 1929. Ça, ce qui se passe avant 1929, c'est le jazz des origines. Nous en étions restés à Chicago où une sorte d'exode massif a amené beaucoup de musiciens, parmi lesquels le jeune Louis Armstrong.
Alors Louis Armstrong, c'est quelqu'un qui a eu une vie un peu particulière. Quand je dis particulière, c'est pour nous. Parce qu'en réalité, pour cette époque-là, c'était pas si particulier que ça. D'abord, il n'a pas de père, déjà. C'est sa mère qui l'élève. Alors, bien sûr, comme beaucoup de petits gamins de cette époque, il est dans la rue. Et bien sûr, il y fait des bêtises.
Oui, surtout que dans les rues de la Nouvelle-Orléans, au début du siècle, il y avait vraiment de quoi faire beaucoup de bêtises.
Et il fait une très grosse bêtise, puisqu'il a trouvé, je ne sais pas comment, un revolver. Et il s'amuse à tirer des coups en l'air.
Ça veut dire que c'est mardi gras, quand même.
Oui, d'accord, mais quand même. Et naturellement, il est attrapé par la police, qui lui dit, petit voyou, qu'est-ce que tu fais là, etc. Graine d'assassin. Eh ben oui, mais là, on le met en maison de correction.
Ah, ça rigole plus. Il se retrouve à ce qu'on appelait le wife's home, c'est-à-dire la maison pour les enfants perdus, un peu.
Hein. C'est ça. C'est la maison de sauvegarde, hein, c'est un peu ça. Et là, bien sûr, il va mener une vie de pensionnaire très, très surveillée, je dirais.
Oui, mais il va rencontrer un pédagogue génial.
Mais voilà, c'est le début de sa vie musicale. C'est qu'on lui met dans les mains une trompette. Parce que dans tous ces pensionnats, il y a des orchestres de jeunes qui se font d'ailleurs une grande concurrence et qui ont beaucoup de prestige, même s'ils sont venant d'une maison de correction.
Oui, c'est une sorte de sauvetage social par la musique, en fait. Et là, le jeune Armstrong est remis sur des rails possibles et il va consacrer sa vie à la musique tout en faisant des petits boulots alimentaires. Il est livreur de charbon, il est porteur de linge, il travaille avec qui en veut.
Oui, parce qu'il faut dire que quand même, il y a bien un moment où il est sorti de là. Hein.
Ah bien sûr, il est resté je crois 2 ans. Et puis on commence à parler de lui à telle enseigne qu'en 1922, il a 21 ans, hein, un New-Yorkais qui est pianiste accompagnateur de la chanteuse Ethel Waters, qui vient en tournée et qui passe par la Nouvelle-Orléans, eh bien il repère ce jeune et il lui propose de venir avec lui à New York. Et Louis Armstrong, il n'a pas envie, alors il ne part pas. Et plus tard, Fletcher Anderson le repère dans l'orchestre de King Oliver, une fois monté à Chicago. Et c'est là que nous avions laissé le jeune Armstrong il y a 15 jours.
Il a une cote incroyable, hein, ce Louis Armstrong.
Oui, mais à New York, où Fletcher Anderson va le faire venir, parce que, miraculeusement pour Fletcher Anderson, Louis Armstrong accepte de quitter King Oliver pour lui. Et ce débarquement à New York ne va vraiment pas passer inaperçu. Voici ce qu'en dit un des trompettes new-yorkais de l'époque, très jeune, qui s'appelait Rex Stewart.
Alors, Louis fait la conquête de la ville. Je ne jurais plus que par lui, comme tout le monde. J'essayais de marcher comme lui, de parler comme lui, de manger comme lui, de dormir comme lui. J'ai même acheté une paire de grosses godasses de policeman comme celle qu'il portait, et je restais devant sa porte pour le voir sortir. Enfin, j'ai pu lui serrer la main et lui parler.
Tu te rends compte que là, c'est un jeune homme de 19 ans ou de 18 ans qui écrit d'un autre qui en a 22. Enfin, je veux dire, c'est...
Ah oui, là...
C'est inouï, quoi. Et New York, déjà, ça bouillonne bien parce que parallèlement à l'exode vers Chicago, d'autres musiciens ont émigré à New York, attirés par la montée en puissance du quartier de Harlem, où tout ça se passe, et où se produisent déjà des jazzmen originaires, non pas du Sud, mais de l'Est. Et c'est là, naturellement, que Fletcher Anderson a sa base. Ce sont les premiers temps du Big Band, tout premier grand orchestre de jazz. Ce sont ses premiers temps, c'est celui de Fletcher Anderson. Et l'arrivée de Louis Armstrong se fait dans un milieu musical où le jazz est encore sautillant et même poussif. Et chaque morceau enregistré à cette époque par l'orchestre voit une sorte de lumière jaillir à chaque solo de ce jeune Louisianais qui est en train de traverser l'année 1924, sabre au clair et en déclenchant sur son passage une sorte de tsunami culturel. Alors pour illustrer ça, voici un morceau qui s'appelle Shanghai Shuffle, où on peut mesurer tout le contraste de l'irruption de Louis Armstrong dans son solo vers la fin du morceau.
baby, hey, hey.
Il y a comme ça une quarantaine de morceaux enregistrés par Fletcher Anderson avec Lou Armstrong, mais il en a quand même consacré un, plus particulièrement à ce jeune trompettiste. Il a repris le Deeper Mouse Blues de King Oliver et il y a ajouté une sorte de petit couplet de 16 mesures dévolu à un trio de clarinettes, ce qui change le morceau. Le morceau change de nom et devient Sugar Foot Stomp. Et chose étonnante, dans ce Sugar Foot Stomp, Lou Armstrong a tenu à reprendre le fameux solo de son maître King Oliver dans le même morceau un an auparavant.
Finalement, à Harlem, que demande le public de Harlem? Eh bien, curieusement, il demande plutôt des blues. Des blues, vous savez, c'est cette musique qui vient plutôt de la campagne. Eh bien, elle va, comme sur une vague, aller aussi en ville. Il demande du blues, et bien sûr, vous savez, les Américains sont très pragmatiques. Vous voulez du blues, mes amis? On va vous en donner, hein?
Tu sais, c'est pas très étonnant qu'ils demandent du blues, parce que cette musique de la campagne leur convient, parce qu'ils viennent eux aussi souvent de la campagne.
Et oui, et oui.
L'exode massif vers l'industrie lourde, c'est un exode d'ouvriers agricoles, en fait.
Alors, on fabrique pour eux des disques qui s'appellent des Race Records. On peut pas être plus clair. Race, ça veut dire...
La race.
La race, c'est-à-dire les noirs. Records, c'est les disques.
Voilà.
Voilà, ils sont pour eux. Et peu à peu, comme ça se vend très bien, il y a des artistes qui vont avoir... pour la première fois de leur vie, des exclusivités avec les maisons de disques. Par exemple, Bessie Smith.
Ben nous allons là nous consacrer à la maison Columbia, qui a en exclusivité non seulement Bessie Smith, comme tu viens de le rappeler, mais également Clara Smith. Et il faut savoir que parallèlement à son grand orchestre en gestation, Fletcher Anderson, qui est un homme, un musicien extrêmement actif, s'est placé à la Columbia, lui également, et il hante les studios de la Columbia avec quelques-uns de ses musiciens, en faisant des piges pour accompagner les artistes maison qui chantent le blues. C'est très curieux d'ailleurs cette histoire, parce qu'une chanteuse de blues est convoquée tel jour pour enregistrer un blues, mais on lui dit pas avec tel, tel ou tel. Elle arrive au studio, et là il y a des jeunes gens qui font antichambre et qui attendent le client. Et Lou Armstrong, Joe Smith, Charlie Green, Fletcher Anderson, ils sont tous là. Ils attendent que les filles arrivent et fassent leur casting. Hein. C'est assez étonnant comme situation.
Ça prouve d'ailleurs l'incroyable flexibilité de ces gens-là. Parce qu'on leur dit, tu vas jouer ça avec tel style, telle manière, allez hop, on y va, pas de problème. Mais je vais revenir un tout petit peu sur la vie de Bessie Smith, ou plutôt sur sa fin de vie, parce que c'est quelque chose de très symptomatique. Bessie Smith voyageait beaucoup, hein, parce qu'elle faisait des tournées, elle faisait pas que des disques, faisait aussi des tournées. Et un jour, au cours d'une tournée, elle a un accident de voiture. Et elle est assez gravement blessée, et surtout, elle perd beaucoup de sang. Eh bien, les amis, vous pensez bien, l'amène le plus vite possible à un hôpital. Ah non, là, on ne prend que des blancs. Un deuxième hôpital. Ah non, il faut aller plus loin. Il faut aller hôpital pour noirs. Et finalement, elle a perdu tellement de sang que quand elle arrive enfin à un hôpital où on reçoit les noirs, eh bien, elle est mourante. Et puis, elle meurt.
Ah oui, ça s'est passé en 1934, cette mort de Bessie Smith. Et on n'a pas fini d'en parler. Il y a même une pièce de théâtre là-dessus. Pour illustrer ce que nous venons de dire, voici à la file deux morceaux, deux blues magnifiques. Le premier s'appelle Reckless Blues. C'est Bessie Smith, l'impératrice du blues, était son surnom, et entre nous, elle ne l'avait pas volé. Et après, vous entendrez le blues du naufrage, Shipwreck Blues, chanté par Clara Smith, qui n'a aucun rapport de parenté avec Bessie Smith.
Oui, enfin, des Smiths, il y en a un paquet. Hein.
Parce que c'est comme si vous appeliez... Non, nous ne dirons pas les noms pour ne faire de tort à personne. Des noms très courants, quoi. Shipwreck Blues, c'est un blues en mineur, tout à fait prenant. Et le point commun de ces deux morceaux, c'est qu'ils sont tous les deux accompagnés par Lou Armstrong à la trompette, dans une autre facette de son art.
I was
Et puis, directement monté à New York, un autre néo-orléanais, lui, est un petit malin.
Et oui, il a trouvé un filon.
Il a trouvé un filon, c'est-à-dire de tout faire à la fois, comme tous les gens qui bossent. D'ailleurs, c'est un petit peu le schéma au Venet de Paris, ce néo-orléanais à New York. Hein. Il arrive, il monte une boîte, il est pianiste, il est compositeur, il est producteur, il est éditeur de musique, il fait tout. Et puis, comme il a des compatriotes qui commencent à devenir célèbres, il leur pousse un peu la chansonnette pour qu'ils viennent jouer avec lui.
Et là, bien sûr, ça va être une rencontre exceptionnelle de deux monstres sacrés.
Tous les deux de la Nouvelle-Orléans.
Louis Armstrong et Sidney Bechet.
L'industrieux Clarence Williams, qui a aussi une femme à placer qui pousse la chansonnette, pas mal d'ailleurs, laquelle s'appelle Eva Taylor, eh bien, il monte une séance pour sa femme, avec, pour l'accompagner, en toute simplicité, Louis Armstrong et Sidney Bechet. C'est quand même fortiche. Hein. Et alors là, nous allons vous faire entendre, parce que naturellement, ils ne se contentent pas de ce rôle d'accompagnateur, là, hein, les deux. Il y a, dans un des disques de cette série-là, une extraordinaire empoignade musicale entre Armstrong et Bechet, et ça se passe sur un morceau qui s'appelle Keep Walking Babies. Là, c'est la bataille du saxo-soprano et du cornet.
They like to call them very nice.
Et puis, Armstrong, il va quitter Fletcher Anderson et il va revenir à Chicago.
Eh oui, parce que son excursion new-yorkaise, qui a duré 14 mois, qu'il a passé à semer la révolution, ont commencé à le rendre assez célèbre. Donc, il a maintenant d'autres propositions sur Chicago et il y retourne.
Là, il va jouer dans le Hot Five et le Hot Seven. Hot, ça veut dire la musique qui pulse.
Hein, ah oui, ça c'est sûr.
Hot, ça veut dire chaud, mais en réalité, c'est une chouette musique, quoi.
Alors, il va reprendre ses vieux compères de la Nouvelle-Orléans, Kid Dory et Johnny Dodds, et il va faire une série de disques, parce qu'il faut savoir que c'est un orchestre uniquement de studio. Il n'a jamais existé en vrai. Ils se sont retrouvés qu'au studio. Ils se connaissaient tellement bien que...
Et ça a une conséquence, c'est que comme tous les jeunes noirs s'achètent ces disques, les écoutent avec passion jusqu'à ce qu'ils soient usés, eh bien, du fait que... ils peuvent les entendre, les réentendre, etc. Toutes les phrases musicales de Louis Armstrong sont écoutées, disséquées, répétées, intégrées par des jeunes qui essayent de jouer comme lui.
Et ça, c'est très important parce que Louis Armstrong, qui est certainement un des génies de son époque, est en train, avec ces disques-là, d'inventer ce qui va devenir le langage quotidien du jazz. Le jazz, en fait, c'est une sorte de dialecte musical armstrongien pendant très longtemps.
Si Armstrong gagne très correctement sa vie avec tout ça, parce que bon, il n'est pas que célèbre, il gagne aussi de l'argent. Lui, il est vraiment professionnel, hein, il ne fait que ça. Par contre, tous les gens autour de lui, même de très bons musiciens, ont souvent un double métier.
Oui, parce qu'il faut quand même bien gagner sa vie. Et là, il n'y a plus aucune différence entre l'amateur d'élite, je dirais, et le professionnel qui fait que ça. Hein. Passons sur Armstrong, mais le tromboniste Kid Dory fait des petits boulots. Johnny Dodds, clarinettiste et chauffeur de taxi. Le banjoïste Johnny Saint-Cyr est plâtrier peintre. Et à l'époque, il a même ouvert une boutique de décoration. Et la pianiste, Lil Hardin a trouvé un très bon métier, c'est Madame Armstrong, déjà.
C'est pas mal.
Mais elle est aussi démonstratrice dans un magasin de piano. Néanmoins, les disques sont géniaux, en voici un. C'est peut-être le plus célèbre, il s'appelle Cornet Chop Suey.
Thank you.
Mesmero a dit de Louis Armstrong, Louis a tout fait et tout fait le premier. Eh bien, un bel exemple de ça, c'est l'invention du scat. Le scat, c'est Louis Armstrong qui l'a inventé et finalement, c'est presque par hasard.
Ils étaient dans un studio et Armstrong avait un papier pour chanter les paroles. Il ne les savait pas par cœur, hein, on ne sait pas tout par cœur. Et puis, ils étaient en train d'enregistrer. Vous savez, on ne faisait pas beaucoup de prises. Hein.
Et c'était toute une affaire.
C'était très cher et tout ça. Donc, il fallait vraiment faire... La première était souvent la bonne. Hein. Et là, il fait un mouvement. Pouf, la feuille tombe, mais vraiment loin. Et il fallait qu'il continue, puisqu'il était en train de chanter. Et là, ben, il s'est mis à chanter des paroles qu'il a inventées, mais des paroles qui ne voulaient rien dire.
Des sortes d'onomatopées.
Voilà. Et les gens trouvaient ça tellement génial, c'était tellement en mesure, c'était tellement joyeux, c'était tellement rigolo aussi, que c'est devenu une manière de chanter, parce que tout le monde l'a copié, puisque tout le monde copiait ce qu'il faisait.
Exactement, les disques du Hot Five s'arrachaient comme des petits pains, et... On raconte que dans le quartier sud de Chicago, comme à Harlem, les copains qui se rencontraient commençaient par se scatter nez à nez l'un de l'autre. Et le morceau s'appelle Hibijibis, il est naturellement très célèbre et vous pouvez apprécier le passage du vocal au scat, c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Un peu plus tard, Louis Armstrong a renforcé son orchestre en y ajoutant un batteur, le frère de clarinettiste, qui était également chauffeur de taxi, et un tuba, dont je ne sais pas du tout ce qu'il faisait comme métier alimentaire. Il appelait ça le Hot Seven.
C'est avec cet orchestre-là que Louis Armstrong a enregistré le morceau.
Le meilleur de tous ses disques, selon Louis Armstrong.
Oui.
Le disque s'appelle Potato Head Blues, et bien franchement... Je peux vous dire que ce morceau-là et les deux que vous avez entendus avant, tous les amateurs de jazz les connaissent par cœur d'un bout à l'autre et sont même capables de vous les mimer si vous leur demandez gentiment. (Musique) jazz est devenu un marché et commence à devenir une affaire. Le showbiz, parce que y a un showbiz, hein, il existe toujours un showbiz quelque part.
Oui, surtout en Amérique. Hein.
Le showbiz commence à le prendre en main. C'est là où on retrouve tout le schéma que nous avons décrit dans cette émission précédente qui illustrait le rôle des gangsters par rapport au développement du jazz.
Oh, alors on va être gentil avec eux, c'est pas complètement des gangsters, les gens du showbiz, mais money, money d'abord.
Oui, enfin là quand même, dans les années 20, les gangsters y étaient extrêmement présents. D'ailleurs, tu sais que Louis Armstrong a eu comme agent artistique toute sa vie l'ancien comptable d'Al Capone. Il faut quand même le savoir. Monsieur Joe Glaser.
Eh oui.
Et le showbiz, où est-ce qu'il est le mieux implanté? C'est quand même à New York. La grosse pomme, Big Apple. Et New York attire de plus en plus de gens. Donc le jazz connaît une nouvelle émigration et Chicago se vide. La capitale de cette musique sera désormais new-yorkaise et son chef-lieu sera...
Harlem. Alors il faut savoir qu'Harlem, c'est la traduction américaine de Harlem, qui est une ville hollandaise. Car tout à fait au début du peuplement américain par les Européens, eh bien ce sont les Hollandais qui s'étaient installés par là.
D'ailleurs, New York s'appelait la Nouvelle Amsterdam.
Absolument. Alors, Harlem, c'est principalement une population noire. Hein. Quand je dis principalement, c'est...
Non, mais c'est uniquement d'ailleurs
uniquement,
à l'époque.
Oui, oui.
Pour des raisons immobilières qui seraient trop longues de développer ici.
Cette population, elle a son niveau de vie qui monte, hein, ça ne fait aucun doute. Et elle est de plus en plus cultivée, et cultivée musicalement. Les plus fortunés veulent que leurs enfants fassent des études en général, et des études musicales en particulier. Donc ils leur font apprendre, comme les petits blancs, n'est-ce pas, le piano, le solfège. Et finalement, ça fait qu'il y a une espèce de mélange entre ces blues venus de la ruralité et puis une culture jazz qui est en train de s'agrandir et devenir un peu au contact de la musique classique, un peu au contact de toutes les influences qu'ils reçoivent.
Et à cette époque-là, Harlem est pris dans un véritable bouillonnement intellectuel qu'on a appelé le mouvement Harlem Renaissance. Et ce mouvement va durer jusqu'à la guerre, et la musique y joue un rôle de premier plan, et le piano y connaît une très grande importance. De ce côté-là, Harlem est marqué par trois grandes figures, toutes nées dans l'État de New York.
James P. Johnson, Fats Waller et The Lion.
Willie Smith.
Willie Smith, oui.
Ces trois-là étaient, à cette époque-là, pratiquement inséparables. Ils régnaient sur le piano à Harlem. Il faut dire qu'ils étaient assez extraordinaires. Et on les appelait le lion, la brute et l'infect.
Infect étant un terme à l'époque qui voulait dire génial, gigantesque, merveilleux, vous voyez. Comme quoi les mots, hein.
Oui, on a des cas pareils en français, hein.
Absolument, absolument. Ceux qui n'ont pas les moyens de se payer les professeurs de piano ou qui n'ont pas les moyens artistiques d'en jouer comme ils peuvent, ils ont quand même un moyen d'entendre de la musique qui leur plaît, c'est avec le piano mécanique. Alors le piano mécanique, c'est un machin, c'est un piano. Et il y a des rouleaux de papier troué qui font qu'on n'a qu'à mettre ce papier troué et on entend les morceaux qu'on veut.
Comme pour un orgue de barbarie. Mais les bandes perforées ont été perforées avec un autre piano qui était joué par un pianiste, lui. Et quand cette machine fonctionne, on voit les touches s'abaisser également. Il a l'air de jouer avec un pianiste fantôme. Et on peut accélérer ou ralentir le mouvement. C'est-à-dire que tous les types qui veulent apprendre le piano, comme le joue James P. Johnson...
Ils mettent leurs doigts sur le clavier.
Voilà, ils ralentissent le mouvement et... Ils apprennent comme... Et tous ces pianistes, tous ces grands bons hommes du piano de l'époque pratiquent une manière de jeu du piano qui s'appelle le stride, qui dérive du ragtime et qui l'a parfaitement jazzifié. Stride à cause des mouvements en sorte d'enjambée de la main gauche entre la note basse et l'accord. Enfin, c'est la main gauche qui pompe tel un shaddock pour que la pulsation existe.
C'est extrêmement tonique. Hein. Là...
Voici deux exemples. Le premier exemple s'appelle Valentine Stomp. Et le deuxième, toujours par Fats Waller, s'appelle...
Handful of keys, ce qui veut dire la main pleine de clés. Alors, la main pleine de clés ou la main pleine d'accords, comme vous voudrez. ¶¶
Parallèlement, on assiste au développement de l'art du grand orchestre. Vous avez tout à l'heure entendu le grand orchestre de Fletcher Anderson dans Shanghai Shuffle, avec l'irruption du jeune Armstrong dans une sorte de musique un peu sautillante et poussive, comme nous disions.
Armstrong, la comète, est passé par là.
Voilà le résultat, la métamorphose d'un collectif. Pour l'illustrer, un morceau qui s'appelle Hop Off. Mais la valeur bon temps de cette époque, c'est Duke Ellington.
Ah, ce Duke. D'abord, Duke, c'est son surnom, hein. Ça veut dire Duc. Et franchement, le gars, il a de l'allure.
Là, nous pouvons en témoigner. Parler avec Duke Ellington...
Ah, c'est impressionnant.
C'était très impressionnant. C'était un regard absolument extraordinairement royal. Mais il n'était que Duke. Le King s'appelait Oliver. En fait, il s'appelait Edward.
D'origine, il est d'une famille tout à fait bourgeoise.
De Washington.
Où il a appris à jouer du piano classique avec tous les professeurs qu'il fallait. Alors ses parents lui disent « Tu seras architecte, mon fils ?»« Oui, oui, papa, oui, oui, maman. » En réalité, le jeune fait des études d'architecte théorique. Mais le soir, qu'est-ce qu'il fait ? Il va jouer du piano dans tous les endroits possibles parce que c'est un fou de jazz. Finalement, il a bien envie d'en faire son métier, mais pas facile. Et là, il a sa chance.
Là, il a vraiment de la chance.
Le Cotton Club décide de placer ses spectacles sous le signe des racines africaines.
Toujours le mouvement Harlem Renaissance
parce
oblige.
Parce qu'il s'adresse naturellement à King Oliver, qui est le grand chef, le grand maître. C'est vraiment...
Ah, c'est quelqu'un d'important qui a fini par rallier New York comme les autres et à qui les gens du Cotton Club demandent de constituer une sorte de grand orchestre, hein, d'étendre un peu son orchestre de l'époque pour s'adapter à ce côté africain qui est vraiment dans le vent. Là.
Et King Oliver dit « Ah, mais ça va me coûter bien cher, moi !» Et il demande une très grosse somme pour ça. Et le Cotton Club dit « Oh ben non, quand même, là il exagère !» Et finalement, il cherche quelqu'un d'autre. Et il y a là Duke Ellington, qui est vraiment très jeune, lui, et qui a la possibilité de créer à toute vitesse un orchestre.
Il a la possibilité et également l'aiguillon, parce que Ellington, il sait déjà que son instrument, c'est pas le piano, c'est le grand orchestre, avec lequel il va pouvoir jouer. Et là, il a l'occasion de constituer le grand orchestre de ses rêves, et il ne va pas la manquer.
Il rentre donc au Cotton Club, et c'est le début d'une extrêmement brillante carrière.
Étant donné le contexte, Duke Ellington invente pour son big band tout frais une sorte de style sombre et rugissant qu'on va appeler le style jungle. Cette musique en quelque sorte impressionniste et, tu sais, pleine de couleurs inquiétantes. Et là, on va développer des techniques musicales très intéressantes par l'emploi notamment
de la sourdine wah-wah,
qui n'est autre qu'un simple débouchévier auquel on a retiré son manche.
Et ça fait des bruits de la jungle dans le genre « waouh, 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 waouh ».
Et puis alors, les morceaux sont magistralement composés. Alors, c'est quand même étonnant cette affaire de débouchévier, parce que quand on démonte un débouchévier, il y a deux parties, une en bois et une en caoutchouc. On sait ce que devient celle en caoutchouc, mais personne n'a jamais su ce qu'on faisait des manches. Toujours est-il que le grand bonhomme de cette forme d'expression est trompettiste et qu'il s'appelle Bubber Meley. Le morceau que vous allez entendre s'appelle The Mooch. Juste avant que la fameuse crise de 1929 vienne s'abattre sur le pauvre monde, la vie est belle, la vie est prometteuse, elle tiendra rien du tout, mais elle est très prometteuse, les gens sont joyeux, et voici donc, pour terminer, toujours de Duke Ellington, un morceau jubilatoire, et qui s'appelle
Jubilee Stomp.
Thank you.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.